Bonsoir, spéciale université, les étudiants congolais réagissent au point chaud de l'actualité de la semaine. Quatre thèmes sont retenus. Nouveau tremblement de terre à Bukavu, Sud Kivu, reprise des affrontements au Nord Kivu, nouvelle nomination du haut magistrat, plainte de deux sénateurs de l'opposition sur le non-respect de la retenue de 40% de recettes nationales destinées aux provinces. Nous avons ce soir avec nous trois étudiants qui représentent les institutions universitaires de trois provinces de l'ouest du pays. Il s'agit de Daribert Mbumba, président de la coordination étudiantine de l'université de Mbansangungwe de Kisantu dans le Bas-Congo, Madé Manganza, président de la coordination étudiantine de l'Institut supérieur de commerce Kinshasa IEC, et Bellamy Kalala Chikala, président de la coordination étudiantine de l'ITEM Mbujimayi au Kasai-Oriental, que nous n'arrivons pas encore à atteindre au téléphone. Nos auditeurs ont, comme d'habitude, réagi, Carlos Benga de Butembo Nord Kivu. Tant que la catastrophe naturelle qui vient d'endeuiller la RDC et le Rwanda vient à prendre aux deux pays qui doivent coopérer car ils partagent un destin commun. Docteur Jean-Claire Kalouse de Likatio Katanga estime pour sa part que la plainte déposée par les deux sénateurs de l'opposition vise le respect des textes légaux de la RDC. Pour lui, voter ce budget comme l'a fait le Parlement et le promulguer est passible de démission de trois institutions concernées. Enfin, Olivasson de Guémena dans l'Équateur pense que la longue conférence du mois de janvier dernier sur la paix et la sécurité dans le Bas-Congo reste jusque-là, sans effet sur le terrain.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h hors de Kinshasa au 099-899-222.
Passons directement à notre premier thème de ce soir. Le nouveau tremblement de terre de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter, ressenti à Bukavu Sud Kivu ce jeudi tôt le matin, a fait plus de 44 blessés dans cette ville, selon l'inspection provinciale de la santé. La plus grande partie de blessés a été enregistrée dans la commune de Bagira, la plus touchée. Les dégâts matériels continuent à s'alourdir et le comité de crise s'attelle à recenser les sinistrés et le besoin de trouver un abri sécurisé devient de plus en plus pressant pour les habitants de Bukavu. Les détails avec notre confrère qui est sur place à Bukavu, Michel Chirimwami.
Des sources officielles, on en était à 11 blessés dans la commune de Bagira, selon le bourgmestre adjoint. À l'hôpital général de référence, on fait état de 4 cas graves. Les autres ont reçu des soins puis sont retournés chez eux. Une mère de famille dont les deux enfants ont été blessés exprime son désarroi devant le danger qui guette sa famille.
Les tremblements de terre étaient si forts. Nous avons couru pour aller voir là où dormaient les enfants et c'est à ce moment-là que les briques sont tombées sur eux et les ont blessés au visage et aux pieds. Toute la maison est complètement détruite. Là où il y avait des fissures, ça s'est transformé en gros trou. Le grand risque est que le reste des murs se trouve sur nous. Ce qui reste de la maison, c'est juste le salon, mais c'est trop petit car nous sommes 17 personnes.
Avec cette deuxième grande secousse, le bilan matériel continue lui aussi à s'alourdir dans cette commune de Bagira. Un comité de crise enregistre toujours plus de sinistrés. Un membre de ce comité fait état d'une liste de plus de 4500 maisons touchées dans toute la commune. Pour l'heure, la population reste traumatisée, mais n'a pas pris l'option de passer la nuit dehors. Le besoin immédiat de se munir de bâches pour se mettre à l'abri des maisons fissurées est loin d'être assouvi. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Malé Mangaza, vous êtes président de la coordination étudiantine de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC en sigle. Votre réaction par rapport d'abord à ce nouveau tremblement de terre qui traumatise vos collègues qui sont dans les autres instituts supérieurs et universités de la partie Est du pays?
Merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole de m'exprimer. Sur les ondes de la radio Capi.
Je vous en prie.
Face à ces catastrophes, messieurs les journalistes, je vous rappelle que nous ne devons pas voir la RDC comme pays. Voyons la question dans une approche globalisante par rapport au drame, pour sauver les vies humaines. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous demandons l'implication de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale de venir la RDC comme pays en aide. Pourquoi? Parce que Notre pays est parmi les pays programmés dans le PPT. Donc vous connaissez, c'est le pays pauvre, très endetté. Et à ce niveau, nous ne serons pas à mesure. Nous ne serons pas à mesure de nous aligner contre les telles catastrophes par rapport aussi à notre économie qui vous connaissez, la manière que nous faisons la renaissance. Alors, pour pallier à ces drames, nous demandons solennellement à la communion de tous les Congolais d'abord, de se souder le coude, d'être solidaires envers les amis. Surtout, j'en appelle aux étudiants de la République, qui ne sont pas de l'Est, de soutenir tant moral, spirituel que matériel, nos amis étudiants de l'Est, qui sont en train de mourir nuit et jour, pour que nous puissions, nous aussi, à notre niveau, trouver des solutions, même proposer des solutions.
Oui, Madé Manganza, est-ce que vous vous sentez, vous, étudiant de l'Est du pays, concerné par ce drame que vit vos collègues et pourquoi pas la population de Bukavu et de Goma, puisque à Goma également, ils ont ressenti ces secousses sismiques aujourd'hui?
Tout à fait, monsieur le journaliste. Nous nous sentons concernés du fait que, d'abord, c'est la vie de nos collègues étudiants qui est mise en danger. C'est-à-dire, le feu qui a tremblement de terre, il y a mort d'hommes, et nous disons, le pays s'est construit avec la jeunesse, car la jeunesse est le soir de demain. Si la jeunesse est sous-gentille, elle est en train de mourir. Vous savez ce que ça vaut pour demain. Alors, quand le gouvernement investit dans la politique de la formation de la jeunesse, au retour, ces catastrophes ne font que anéantir les efforts du gouvernement. Donc nous ne pouvons être que de près à nos collègues de l'Est et demander à ce que ceux qui sont concernés, de loin comme de près, puissent nous porter secours pour enfin aider les collègues qui sont en détresse.
Vous êtes président des étudiants de l'ISC Kinshasa, Madé Manganza. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les autres coordinations des étudiants qui sont à Bukavu et à Goma notamment?
Oui,
mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils sont dans quel état d'esprit?
Monsieur le journaliste, je vous rappelle d'abord que nous, étudiants de la République démocratique du Congo, nous avons une structure qui nous réunit, que nous appelons Représentation des étudiants du Congo, REC en sigle. Dans cette représentation des étudiants du Congo, il y a un coordonnateur, des adjoints et un secrétaire général. En ma qualité de coordonnateur des étudiants de l'IEC Gombe, j'ai été aussi élu.
Oui, mais pour répondre à ma question rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, est-ce que vous êtes entré en contact avec les autres coordinations étudiantines à Bukavu et à Goma notamment, et vos collègues, ils sont dans quel état d'esprit?
Oui, j'en arrive, c'est pour ça que j'allais atterrir, et je vous rappelle que le coordonnateur de tous les étudiants de la RDC est en ce moment précis en train de chercher les voies et moyens pour se mettre en contact avec les amis de l'autre côté, sachant que nous étudiants, nous évoluons avec nos maigres moyens. Le temps que nous avons appris les tremblements est que, au moment où je descendais pour la station, le président, qui est le président de tous les présidents, était en train de se préparer pour parler avec les amis. Et au moment venu, nous saurons ce que nous pouvons faire.
Oui, avant de passer la parole à Daribert Mbumba, qui est président de la coordination étudiantine de l'université de Mbansangungu et de Kisantu dans le Bas-Congo, il intervient au téléphone depuis le Bas-Congo, mais il faut dire qu'on ne vous a pas vraiment beaucoup senti, senti votre solidarité à l'endroit de vos collègues étudiants de Bukavu et de Goma. On ne vous a pas beaucoup.
Oui. Merci beaucoup d'avoir pour la parole, c'est une honneur pour nous. En premier lieu, je voulais d'abord exprimer nos sentiments de compassion à l'endroit de nos camarades étudiants de Bukavu. C'est vrai qu'il y a une difficulté de communication entre la partie Est et l'Est. Mais cela, cette situation aussi doit nous permettre davantage de mettre en place de nouvelles stratégies pour parvenir entrer aussitôt en contact avec nos amis de l'Est.
Donc, vous voulez dire que vous vous sentez, je disais qu'on vous a vraiment pas senti, hein, je sais pas si vous avez vraiment répondu à ma question, peut-être par des gestes ne fût-ce que symboliques ou par des déclarations de soutien, on ne vous a vraiment pas senti, vous les étudiants, être solidaires avec ceux qui sont meurtris à l'est du pays.
Non, je rencontrerai le point de vue de notre ami président Mahdi Diouf. Je pense qu'il y a un problème de moyens aussi. On est d'abord, même si on ne nous a pas senti matériellement comme ça, jusqu'à présent, parce que c'est pas encore fini, nous pensons que nous sommes de cœur avec nos amis de l'Est. Quelquefois, les mêmes, on peut d'ailleurs vous rappeler, lors de la conférence à l'Est, nous avons contribué ici au Bakou, c'est-à-dire que ça prouve déjà notre solidarité à l'endroit de nos amis et de nos frères, parce que nous avons des frères aussi qui vivent à l'Est. Donc cette question nous intéresse, mais faute de moyens, peut-être que nous ne pouvons pas, les moyens communicationnels aussi nous fait défaut, mais cette situation aussi nous dit que ça nous apprendra pour mettre une stratégie efficace pour en cas de problème et entrer en contact rapidement avec nos amis.
Nous devions aussi avoir dans cette émission Bellamy Kalala Chitala, président de la coordination étudiantine de l'ISTEM de Mbujimayi au Kasaï Oriental. Mais nous essayons de l'appeler, nous n'arrivons toujours pas à le joindre. Mais nous espérons qu'avant la fin de cette émission, il pourra intervenir dans dialogue entre Congolais. Et quelles sont les solutions que vous proposez pour résoudre les problèmes urgents que rencontrent nos compatriotes qui sont notamment à Bukavu? Nous avons suivi le reportage de notre confrère Michel Chirimwami. Le besoin pressant actuel, c'est de se loger, d'avoir une tente, parce que les gens ne peuvent pas, sont traumatisés. Certains n'arrivent pas à dormir dans leur maison, soit parce que leur maison a été détruite, ou bien les murs sont déjà fissurés. Qu'est-ce que vous proposez comme solution d'urgence à ce problème?
D'abord, je voulais, deux d'entre eux, je voudrais faire remarquer que je suis président de l'université, de l'université Congo, qui se trouve effectivement en Bazongo et qui centre, parce que dans la contrée, il y a beaucoup d'institutions universitaires. Mais pour la question dont je viens de poser, je pense que nous interpellons le gouvernement aussi. Malgré le budget toujours très maigre, il n'y a pas vraiment une politique d'urgence de gestion stratégique de catastrophes naturelles. C'est un événement naturel qui arrive sans nous prévenir. Alors, le gouvernement n'a pas une politique précise de gestion des gens de ces catastrophes. Mais je pense aussi que l'alternative que la communauté internationale par ses organismes vienne en aide pour combler ce genre de catastrophes qui nous arrivent, parce que pendant qu'il peut aussi d'ailleurs nous arriver sur Bakongo, on ne sait jamais.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que la RDC devrait quand même s'organiser au lieu de tout le temps demander de regarder vers l'étranger, l'appel lancé également par votre confrère de l'ISC Kinshasa qui demandait à la communauté internationale d'aider la RDC? Est-ce qu'on ne peut pas également essayer d'abord de mobiliser nos propres moyens et de prévoir certaines stratégies du fait que ces régions sont connues comme étant des régions à risque? Ce n'est pas aujourd'hui que les institutions du pays le savent.
En fait, c'est ce que je disais. Donc, ma première interpellation va à l'endroit du gouvernement, parce que le gouvernement devait normalement s'obliger, est-il que nous sommes conscients de que c'est une région à risque, devait normalement prévoir dans son budget une rubrique de la gestion des catastrophes naturelles comme celle-ci. Alors, elle ne le sait pas. C'est parce que nous avons des députés ou parlementaires qui doivent normalement citer ces cas ici. Et nous aussi, nous devons nous organiser, même avec nos maigres moyens, mais une solidarité nationale peut quand même arriver à résoudre tant soit peu la question de ce genre de crise.
Merci beaucoup, Daribert Mbouba. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination étudiantine de l'Université Congo, qui se trouve également à Banzangungu et à Kisantu, dans le Bas-Congo. J'aurais bien vous, Madé Manganta, vous êtes président des étudiants de l'ISC Kinshasa. Je pense que, à moins que je ne me trompe, mais les examens partiels sont prévus pour la fin de ce mois de février. Qu'est-ce que vous préconisez pour vos collègues qui sont notamment à Bukavu, que ces examens soient reportés, question de se remettre un tout petit peu, ou qu'est-ce que vous préconisez rapidement une minute avant de passer à la seconde partie de cette émission?
Oui, monsieur le journaliste, par rapport à ces examens, voyez, quelque part l'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Écoutez, dans cet état que se trouvent nos collègues de l'Est, leur demander de passer les examens sous un tremblement de terre ou un séisme, ce n'est pas aimer la jeunesse. À mon avis, les catastrophes qui est arrivée sont une catastrophe naturelle. Les autorités doivent y accorder un accent vraiment particulier. Ces examens, je demande à ce que les examens soient reportés pour que les amis puissent se remettre pour bien se préparer.
Vous êtes également du même avis d'Aribert Mbumba, vous qui représentez les étudiants de l'université Congo-Bakongo?
Évidemment, parce que sont sous le choc, ils doivent quand même se remettre psychologiquement. Je pense que c'est une bonne position.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine a aussi été dominée, notamment par la reprise des affrontements au Nord Kivu. Des échanges de tirs ont opposé le matin du mercredi 13 février 2008 les troupes du CNDP et celles de Maïmaï du colonel Janvier. Cela s'est passé à Kibougou, situé au nord-est de Goma et à 30 km de Masisi centre. Ces combats ont été enclenchés l'après-midi du 12 février aux environs des 16h locales, selon des sources recueillies sur place. L'information a été confirmée par la police de Masisi qui signale l'accueil des blessés en provenance de Kibougou à l'hôpital général de référence de Masisi. Les détails avec notre consoeur Sifa Maguru qui est sur place à Goma.
Selon la police à Masisi, une grande parent règne actuellement à Kibougou après plusieurs heures de combat entre les CDP et les Maïmaï du colonel Janvier. Selon la même source, trois blessés dont leur identité n'est pas encore connue sont arrivés sans demander à l'hôpital général de Masisi. Selon un responsable de Maïmaï, une bonne partie de leurs positions sont attaquées depuis dimanche dernier par des éléments du CNDP dans les territoires de Masisi. C'est notamment dans les villages de Yabitaba, Mureto, Nyakariba, Kassorbu, Kibougou et Kibachiro, nord-est de Goma, où des combats se sont poursuivis jusque ce mardi soir, indiquent des sources administratives sur place. Des sources des combattants Maïmaï affirment que tous ces villages sont désormais sous le contrôle du CNDP. Cette situation de combat entre le CNDP et les Maïmaï entraînait depuis le 10 février les déplacements de plusieurs habitants des villages de Nyakariba, Nyamitaba et Mureto et ses environs. Ces habitants ont trouvé refuge à Luchébéré, Boussié et Kalama à près de 6 km au nord de Masisi. Goma, Kifamaguru, Radio Okapi.
Daribert Mbumba, vous êtes président de la coordination des étudiants de l'université Congo au Bakongo. Vous êtes bien sûr à un millier de kilomètres de l'est du pays. Mais quelle est l'analyse que vous faites sur la reprise des affrontements malgré la signature par les groupes armés de l'acte d'engagement pour la paix au nord et au sud Kivu, acte d'engagement qui a été signé le 23 janvier dernier à Goma au nord Kivu?
Alors, merci pour la question. Je pense que mon analyse serait un peu plus ou moins radicale. Alors, je me dis toujours que c'est la signature, la base de la conférence sur la paix et la sécurité au nord des îles Kivu est partie sur de mauvaises bases. Ça, on a pris cette question comme une question de province. Or, nous constituons un corps comme un pays. Si une partie est touchée, c'est que c'est l'ensemble du territoire qui est touché. Mais ça a été géré comme une question du nord Kivu et du sud Kivu. Et les dangers réels ne sont pas, le bas solide ne peut pas vraiment créer.
Mais excusez-moi, Daribert Mbumba. Moi j'étais à Goma, on a vu aussi des délégués venant des autres provinces du pays participer à cette conférence sur la paix dans les deux Kivu.
Oui, évidemment, parce que même si on a une mobilisation des camps qu'on a fait au niveau, mais je pense que là, ils sont venus comme observateurs, que participants sérieux en termes d'apport. Et je me dis toujours que ça fait partie des ratés, parce que ça découle du dialogue inter-congolais. Si le dialogue inter-congolais avait répondu efficacement à ces objectifs, la réintégration de l'armée, la réconciliation nationale, mais ces questions ne voulaient pas que se poser. Mais comme on a raté, et c'est la continuité.
Malé Manganza, est-ce que vous partagez le même avis que celui de Daribert Mbumba, c'est-à-dire que le dialogue entre inter-congolais n'a pas atteint ses objectifs, entre autres l'intégration de l'armée et la réconciliation nationale?
En fait, monsieur le journaliste,
c'est en partie à cause de ça que aujourd'hui l'est du pays est insécurisé.
Non, en fait, monsieur le journaliste, il y a ceci. La question, avant de répondre à votre question, la question que je me pose, et je vais y répondre, est de savoir si le Maïmaï du colonel Janvier et les éléments de la chaîne de paix n'ont pas assisté à cette conférence. Alors, s'ils ont assisté à cette conférence, à mon avis, c'est question des cahiers de charges. Moi, je crois que les cahiers de charges n'étaient pas respectés et ne sont pas respectés jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'au début, tout le monde semblait voir que la conférence était organisée pour le développement, la paix et la sécurité dans ces deux provinces voisines-là. Alors, à mon avis, il y a des agendas cachés qui n'ont pas été dévoilés. Pour preuve, après la signature le 23 janvier, il y a de nouveaux affrontements. C'est pour dire, nous devons essayer de résoudre le problème à la base. Il fallait voir ce que les gens-là réclamaient réellement. Alors, pour ne pas se voiler visage, après avoir récolté tout ce que ces gens réclamaient, il faudra maintenant leur faire voir, expliquer à ces gens que cette conférence-là ne valait pas à la constitution du pays qui est la loi suprême. C'est ce mot-là, ou c'est cette phrase-là, je crois, qui n'a pas vraiment eu son écho.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je voulais dire ceci, qu'en dehors de la conférence, il fallait faire voir aux belligérants, surtout les groupes-là, les milices qui opèrent à l'Est, que par rapport à les cahiers des charges qu'ils voilaient, ces cahiers des charges étaient en dessous de la loi suprême du pays. D'où, il fallait tout d'abord commencer à respecter la constitution du pays.
Mais ils ont quand même tous pris l'engagement de souscrire à la paix et à la fin de la guerre. D'ailleurs, ils ont signé la première résolution qui a été votée à Goma. C'était celle sur la fin de la guerre, au Nord Kivu notamment.
Justement, ce sont des hypocrites. Tous ces militaires-là sont des hypocrites. Ils ont joué un jeu par rapport à cette signature. Pour moi, au moment qu'ils étaient en train de signer, ils les signaient à contre-cœur.
Et la preuve valait que... Qu'est-ce qui le prouve?
Mais la preuve valait que les affrontements ont repris. Juste après le 23 janvier.
Merci beaucoup. Daribert Mbumba, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être avoir un peu de patience dans la mesure où la commission technique mixte sur la paix et la sécurité dans le nord et le sud qui vous doit d'abord être installée concrètement et superviser le déploiement de la MONUC dans toutes les zones qui étaient jadis occupées par les Maïmaï et le CNDP, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord attendre que cette commission militaire, commission technique mixte sur la paix et la sécurité au nord et au sud Kivu commence concrètement son travail de déploiement notamment.
Effectivement, vous avez raison pour le déploiement de cette commission mixte. Elle est très importante dans la mesure où celle peut apporter la paix. Mais nous le disons toujours, comme m'a déjà le dit, il y a eu beaucoup d'agendas cachés. Ils ont signé. On n'a pas la preuve pour dire que c'est à contre-cœur, mais au moins les agendas cachés, on les remarque par la reprise de la guerre. Et nous disons que cette zone-là commence à constituer déjà de longtemps une zone géostratégique où tout le monde, nous ne savons plus la pression, les tirs d'où. Est-ce qu'il n'y a pas volonté politique de part et d'autre? On ne sait pas trop. Mais en fait, le problème de cette commission, peut-être qu'elle sera salvatrice pour la reprise de la paix dans cette partie de notre pays.
Daribert Mbumba, avez-vous l'impression que les affrontements dans cette partie du pays, notamment au Nord Kivu, ont diminué d'intensité depuis la signature de cet acte d'engagement? On n'entend plus parler, par exemple, des affrontements entre l'armée nationale et les éléments du CNDP de Laurent Kounda ces derniers temps.
Évidemment, même pendant la conférence, on avait suivi vraiment un arrêt technique des affrontements. Mais on s'est dit, avec la politique, on ne sait pas s'il y a beaucoup de scénarios, même si on fait plus parler Laurent Kounda, mais que ce soit par eux, on fait parler d'autres personnes, ça, on ne sait pas trop.
Mais qu'est-ce que vous dites de la réaction d'Oli Bassan, de Guémena dans l'Équateur, qui pense que la longue conférence du mois de janvier dernier sur la paix et la sécurité dans les deux Kivus reste jusque-là sans effet sur le terrain? Est-ce que vous partagez son avis ou vous avez un avis contraire?
Non, je pense que c'est correct, c'est pour ça que j'avais dit que c'était parti sur des bases pas totalement solides. Soit la méthodologie appliquée n'a pas été la bonne. Quand vous posez cette question de quelle méthodologie, je pense que c'est là que devait intervenir normalement dans les universités, qui a un rôle de société des savants, qui devait être des historiens qui ont la maîtrise parfaite de ces conflits. Il y a des politologues et tout ça, c'est là que l'université devait intervenir pour donner des solutions, pour proposer des solutions à tous ces problèmes-là. Mais je pense que pendant la conférence, les universités étaient marginalisées, elles n'avaient même pas la présence des universités en termes d'expertise. Voilà un peu, je n'ai pas vraiment une méthodologie précise, mais j'ai dit que le rôle des universitaires devait jouer à ce moment-là.
Madi Manganza, vous êtes président des étudiants de l'IST Kinshasa. En une minute, s'il vous plaît, quelle solution vous proposez, puisque vous voulez, d'Aribert Mbumba vient de dire que l'université devrait être associée à la recherche des solutions à l'insécurité à l'est du pays. Quelle solution préconisez-vous pour mettre fin à cette insécurité, justement?
Justement, je vais aborder presque dans le même sens que mon collègue, en y ajoutant certains accents. Écoutez, monsieur le journaliste, ce que d'Albert Mouva dit, c'est vrai. Comment voulez-vous que la jeunesse, qui est l'avenir de demain, qui apprend, qui est la matière toute fraîche, puisse être marginalisée de la sorte? Nous voulions, à notre tour, observer nos aînés, de la manière dont ils ont conduit.
Mais qu'est-ce que vous proposez? Oui. Vous allez diriger le pays demain, vous, les étudiants d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour mettre fin à l'insécurité, aux affrontements, notamment au Nord Kivu?
Il faut associer tout le monde.
C'est-à-dire?
Les étudiants et toutes les autres composantes de la vie sociale. Il faut les prendre en compte pour pouvoir communier et donner des idées. Alors de meilleures idées pouvoir amener la paix et une paix durable. Sinon, ça sera toujours tantôt.
Merci beaucoup. Spéciale université, les étudiants congolais réagissent à chaud au grand sujet d'actualité de la semaine. Nouveau tremblement de terre à Bukavu au sud Kivu, reprise des affrontements nord Kivu après la signature de l'acte d'engagement des groupes armés, nouvelle nomination des hauts magistrats et plainte de deux sénateurs de l'opposition sous le non-respect de la retenue de 40% de recettes destinées aux provinces. Nous recevons ce soir d'Aribert Mbumba, qui est président de la coordination étudiantine de l'université de Mbanzangungu, de l'université Congo, dans le Bas-Congo. Madé Manganza, président de la coordination étudiantine de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC. Nous devrions également recevoir Bellamy Kalala Chikala, président de la coordination étudiantine de l'ISTEM Mbujimayi au Kasaï Oriental, qui nous avait donné son accord. Malheureusement, nous n'arrivons plus à le joindre. Mais si vous voulez réagir à cette émission, voici la procédure.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Nous passons directement à notre troisième thème de ce soir, qui est les nouvelles nominations des hauts magistrats par le chef de l'État. Vous savez que ces nominations ont soulevé beaucoup de questions de part et d'autre, que ce soit du côté du syndicat des magistrats que des autres associations de défense des droits de l'homme, qui ont qualifié ces nominations de non-respect vis-à-vis de la Constitution. Voilà, le ministre de la justice, Mutombo Bakafuansenda, pense que les personnes concernées par cette ordonnance remplissent les conditions pour être mises à la retraite, c'est-à-dire 65 ans d'âge ou 35 ans de service. Ce n'est pas une décision arbitraire selon lui, mais ce sont des conditions qui sont prévues dans le statut qui régissent les magistrats. Le ministre de la justice, Mutombo Bakafuansenda, était au micro de notre consoeur Agathe Mpona.
Le président de la République a pris les ordonnances de mise à la retraite. Les personnes concernées remplissent les conditions pour être mises à la retraite, comme tous les fonctionnaires de l'État. 65 ans d'âge ou 35 ans de service accompli. Donc ce n'est pas une décision arbitraire, ce sont des conditions qui sont prévues dans le statut qui régit les magistrats. Donc ce n'est pas un problème d'opportunité. Prenez le statut des magistrats, l'article 70. Les conditions pour qu'un magistrat soit mis à la retraite sont détaillées à l'article 70 du statut des magistrats. La deuxième ordonnance, le président constate la démission d'office. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des magistrats qui ont été nommés depuis longtemps, qui n'ont jamais rejoint leur poste. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Ça fait des années, la plupart de ces magistrats touchent l'argent de l'État, alors qu'ils n'ont jamais rejoint leur poste. Certains sont dans les entreprises privées, d'autres sont même à l'extérieur. La troisième catégorie d'ordonnances, ce sont les ordonnances de nomination. Il est normal que lorsque on met quelqu'un à la retraite, ça crée un vide qu'il fallait combler. C'est la loi, madame. Il faut l'appliquer, il ne faut pas l'appliquer.
Pour les députés du MLC Fidèle Babala, qui parlent d'une purge, les ordonnances du chef de l'État violent les statuts qui régissent les magistrats. Et pour également le syndicat national des magistrats, Sinamag, qui était représenté dans une émission que nous avions faite à ce sujet par M. Sambay, c'est que ces nominations violent la Constitution dans la mesure où elle devait attendre la mise sur pied du Conseil supérieur de la magistrature qui devait statuer sur ce problème. Je reviens à vous, Daribert Mbumba. Vous êtes président des étudiants de l'Université Congo et vous intervenez depuis le Bas-Congo. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces sujets qui a soulevé tant de discussions?
Non, je pense que mon point de vue est assez... En fait, la question de l'administration de magistrature, en fait, que nous sachons, c'est que ça devait découler du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui propose les candidats à la nomination, à la promotion et à la révocation, et même pour tout le reste, les conditions de mise à la retraite. Mais nous avons constaté qu'elle n'a pas été faite par cet organe. C'est que nous disons qu'il y a une certaine violation de la Constitution, une fois de plus. Tandis que le débat continue sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui devait normalement proposer, et c'est fait par un autre organe de l'exécutif, sans pour dire que ça traînait tout ça. Donc je pense qu'il y a là une violation à la structure. Et prenons au mot le président du syndicat des magistrats, qui disait qu'il y a certaines conditions de mise à la retraite, parce que c'est une carrière, qui n'ont pas été respectées. Il n'y a plus aucun avantage pour leur retraite. Voilà un peu les deux questions fondamentales qu'on peut dégager à l'analyse directe à chaud.
Mais qu'est-ce que vous dites de la réaction du gouvernement congolais à travers le ministre de la Justice qui estime que, d'autant plus que le conseil, la loi sur le conseil supérieur de la magistrature est encore en examen au Sénat, donc il y avait urgence pour mettre en retraite certains magistrats et puis nommer certains hauts magistrats?
Non, je pense qu'il fallait d'abord respecter le texte de la loi suprême qui est la Constitution. S'il devait avoir une loi organique qui devait déterminer l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il fallait évidemment attendre cette loi organique qui voulait venir à l'appui. Et c'est ça la démocratie. Violer les textes, ça fragilise la démocratie. Donc, on ne pouvait pas, normalement, à moi-même l'avis, ne peut pas évoquer qu'il devait avoir célérité dans la question. On devait normalement attendre l'avancée parlementaire et essayer un peu d'appuyer les parlementaires à prendre cette loi organique pour décanter la situation.
D'arriver, Mandé Manganza, vous êtes président des étudiants de l'IEC. J'imagine que, puisque la presse en a beaucoup parlé également cette semaine, j'imagine que dans vos cercles d'étudiants, vous en avez également abondamment parlé. Quelle lecture avez-vous faite de ces sujets de discussion?
Oui, monsieur le journaliste. En fait, à ce sujet, j'aimerais m'exprimer en ces termes. En tant qu'étudiant, nous ne connaissons pas en fait les motivations relatives à ces nominations, mais toutefois, ce que nous savons, c'est que ces décrets-là, avant que le chef de l'État puisse les signer, et il a été bien traité. C'est-à-dire que le chef de l'État dispose d'un collège des conseillers juridiques, et non le moindre.
Alors, c'est vous qui le dites, hein, ça n'engage que vous-même.
Justement, Dédé, il y a les dispositions légales et réglementaires qui régissent les conseils supérieurs de la magistrature, ainsi que les procédures de nomination, de révocation, de mise en retraite des magistrats. Alors, la question que je me pose maintenant, selon les dispositions de ces textes, qui a raison? Entre ceux qui disent, selon certaines presses, que cette nouvelle nomination divise les magistrats. En fait, monsieur le journaliste, je ne suis pas juriste. Alors, faudra-t-il encore les démontrer sous le plan des textes? En tout cas, n'ayant pas cette formation juridique, je ne voudrais pas me mêler dans ce débat. Au moins, c'est que nous savons que c'est un dossier qui est d'actualité. Et laissons les législateurs faire son travail.
Si je vous ai bien compris, vous voulez dire que la décision du chef de l'État de nommer des hauts magistrats en l'absence de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, cette décision était bien motivée et bien réfléchie.
En fait, la personne du chef de l'État qui est garant de la nation ne doit pas faire ou prendre des décisions qui sont arbitraires. D'une part, et d'autre part, le procédure, comme je l'ai dit bien, et les réglementations à la matière sont collées à toute décision. Pour faire, il faudra que toutes ces procédures et cette réglementation puissent marcher de pair. C'est comme cela que je vous ai dit, le chef de l'État, ayant un collège de conseillers, ils ont bien traité le dossier et ont su, en amont comme en aval, son importance.
Ne pensez-vous pas que ces nominations de hauts magistrats par le chef de l'État apportent beaucoup plus de problèmes que ces nominations voulaient en fait résoudre, c'est-à-dire la mise en retraite de certains hauts magistrats et parer à l'urgence?
Bon, monsieur le journaliste, voilà, c'est que les gens oublient. Là, je parle au nom de la jeunesse étudiantine. Personne, aucun jeune ne me contredira. En fait, ce qui est aussi de mauvais dans ce pays, chaque fois qu'il y a changement, chaque fois que les gens sont amenés à une retraite, et ça n'arrange pas du tout les aînés.
Pourquoi? Parce que les aînés ne sont pas préparés à aller en retraite, ils n'ont pas de compte en banque assez fourni pour aller en retraite, c'est ce que vous voulez dire?
Non, simplement, ils ne veulent pas que la jeunesse puisse prendre relève, car la jeunesse, on la prépare pour prendre la relève d'une nation. Et si les jeunes s'accrochent au pouvoir et s'accrochent à les différentes fonctions, et la jeunesse va travailler où? Nous étudions pour que nous soyons embauchés ici sur place. Et s'il n'y a pas de politique de relève, et c'est le pays que nous enterrons.
Merci beaucoup. Donc, nous n'avons plus beaucoup de temps et nous passons directement à notre quatrième et dernier sujet. Cette semaine, le sénateur du MNC, Jacques Joly, a déposé auprès de la Cour suprême de justice une requête demandant l'annulation du budget 2008 qu'il estime être anticonstitutionnel pour n'avoir pas respecté l'arrêté de 40% de recettes nationales destinées aux provinces. Pour le sénateur Jacques Joly, la requête déposée à la Cour suprême de justice va dans le même sens que celle de l'honorable Lunda Bouloulou qui avait déposé sa requête le mercredi 6 février dernier. Mais la différence entre les deux requêtes se situe au niveau de l'ajout qu'il a effectué dans le cadre des dispositions de l'article 221 de la Constitution. Il était au micro de notre confrère Denis Diboko.
Nous disons que nous avons le même argumentaire. Ce sont les dispositions de l'article 175 de la Constitution qui font partie de nos moyens. Même en plus, nous ajoutons les dispositions de l'article 220 alinéa 2 de la Constitution à ce qui concerne les matières qui ne peuvent jamais faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Mais dans la conception, tout comme dans l'articulation du projet, nous nous inspirons de mêmes valeurs, celles de sauvegarde de l'état des droits et surtout de sauvegarde de recettes et des ressources de province qui sont et qui demeurent le lieu et la base de tout développement national. C'est une démarche à la fois complémentaire et de soutien qui vise donc le même objectif, à savoir la sauvegarde de la Constitution.
Nous n'avons toujours pas en ligne Bellamy Kalala Chikala, président de la coordination étudiantine de étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM de Mbujimayi au Kasaï oriental, malgré qu'il nous avait donné son accord avant lors de la préparation de cette émission. Nous allons directement au Bas-Congo où intervient Daribert Mbumba, président de la coordination des étudiants de l'Université Congo au Bas-Congo. Bwele Masolo, c'est un auditeur de Sake au Nord Kivu, demande si la loi sur la clause sur les 40% de recettes que les provinces devaient retirer à la source était adoptée et promulguée. Donc il se pose cette question, si cette clause de la Constitution avait été adoptée et promulguée, et si oui, pourquoi l'application doit-elle poser un problème aujourd'hui?
Alors, on me la pose cette question.
Oui.
Ok. Alors, je me dis que la loi sur l'information a été votée, bel et bien votée, en fait, qui institue les 40% à un principe constitutionnel.
C'est l'article 175 de la Constitution.
175 de la Constitution, qui dit que la part de recettes à caractère national liée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue d'ailleurs à la source. mais ce qui n'est pas évident et effectif. Et nous disons là aussi une violation flagrante de la Constitution. Notre propre Constitution que nous avons votée à la majorité, nous la fragilisons parce que tout le temps nous la violons et nous disons que la démocratie aussi se fragilise. Jusqu'à ce jour, l'application n'est jamais effective et que les provinces ont du mal à décoller. Or, elles font une révision nationale de somme importante, mais à la retenue, le principe n'est pas encore acquis.
Vous êtes au Bas-Congo, est-ce que vous voulez affirmer que même au Bas-Congo, cette retenue de 40% de recettes nationales n'est pas effectuée à la source au niveau de votre province?
Non, pas encore. Jusqu'à présent, en tout cas, ce que je sache, avec les informations que j'ai, jusqu'à présent, pas encore.
Mais nous avions reçu le ministre, le représentant, le conseiller du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation qui affirmait que cette retenue de 40% à la source est déjà effective dans les provinces, mais le président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo réfutait cette assertion. Donc c'était un peu un certain flou. Votre réaction par rapport à ces sujets, quand même à controverse, Madé Mangan, vous êtes président des étudiants de l'IE. Kinshasa.
Oui, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais partir de quelques éléments d'analyse en ce qui concerne les initiateurs même de cette plainte. La personne de Vichy Lundabou. En fait, cette analyse va me permettre et permettra à l'opinion de comprendre et de conclure aussi. Il est professeur d'université de grande autorité. Deuxièmement, c'est un ancien premier ministre de la RDC ex-Zaïre. Troisièmement, il fut un fonctionnaire international et à ce jour, il est sénateur. Alors, par rapport à ces quatre atouts, la question que je me pose est de savoir, peut-il poser un acte insensé rien que pour de fins politiciens? Moi, je crois que les institutions établies doivent prendre au sérieux cette question de manière à trouver des réponses, vraiment des réponses capables de résoudre à cette crise. Une solution salutaire au regard de la Constitution et autres lois de la République est louable. C'est-à-dire, pour me résumer, les institutions, les législateurs doivent encore étudier cette question.
Excusez-moi, mais le sénateur Lunda Bouloulou et le sénateur Njoli font partie de l'autorité budgétaire, puisque c'est le Parlement qui étudie et vote le budget. Est-ce que, en déposant cette plainte à la Cour suprême, il ne dépose pas également indirectement cette plainte contre le Parlement qui avait voté cette loi dont il demande l'abrogation, l'annulation du budget 2008 aujourd'hui? Ils ont laissé cette loi passer à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais ils portent maintenant plainte contre cette loi.
Écoutez, déposer contre les groupes par les voix, c'est trop dur et c'est trop fort. En fait, quel est le souci des initiateurs? Le souci est de voir le développement de nos provinces progresser comme les textes les décrit. Alors, moi, je crois qu'il fallait aller plus loin pour voir est-ce que il y a des mécanismes, techniquement, le mécanisme sur la caisse de péréquation. Est-ce qu'elle est déjà mise à jour? Parce qu'il est vrai, aujourd'hui, nous pouvons aussi, quelque part chercher à donner vite ces 40% dans nos provinces. Mais je vous assure, monsieur le journaliste, quelque part aussi, il y a des provinces qui ne seront pas résoudre toutes les charges par rapport à ces 40%.
Merci beaucoup. En 30 secondes, d'Aribert Mbumba, est-ce que vous pensez que les sénateurs Njoli et Lunda Bouloulou auraient dû attaquer cette loi pendant qu'elle était en sous-examen au Sénat et à l'Assemblée nationale, au lieu de le faire maintenant?
Mais je pense que la démarche du professeur du sénateur Lunda Bouloulou et son collègue n'était pas d'attaquer, en fait, parce que au Parlement, c'est la majorité qui gagne. Le principe a été déjà acquis, mais ce n'est que l'application qui découle de l'exécutif qui va maintenant appliquer cette retenue à la source. C'est ce qui ne se fait pas. Et je pense que c'est pas une remise en cause du Parlement, mais je pense que c'est une grande interpellation au niveau de l'exécutif.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes obligés de terminer cette émission qui était préparée par Denis Diboko. Merci à Nadine Poula qui l'a réalisée, à Mimi Kindou qui l'a mise en onde. Merci également à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Au revoir et à demain.